Welcome to the debate. Imaginez un président qui fait tout ce qu'il faut pour sauver l'économie de son pays et qui, en récompense, se fait évincer pour ramener au pouvoir l'ancien dictateur marxiste. C'est le paradoxe un peu fou du Bénin en 1995. Et c'est ce qui nous amène au cœur de notre discussion d'aujourd'hui, c'est-à-dire les élections législatives partielles du 28 mai.
Un moment charnière, ouais, c'est clair.
Absolument. Et la question centrale, c'est de savoir si ce scrutin représente avant tout le triomphe éclatant des jeunes institutions démocratiques béninoises ou bien si ça révèle plutôt l'effondrement politique d'un modèle technocratique complètement coupé de sa base sociale. Moi, je suis convaincu que cet événement illustre d'abord la résilience vraiment extraordinaire des institutions issues de la transition de 1990.
Et moi, je vois les choses autrement. Je suis intimement convaincu que ce vote révèle surtout la fragilité structurelle du présidentialisme face à la très lourde facture sociale des réformes de l'époque.
Alors, pour bien comprendre, il faut d'abord regarder comment la justice a réagi cette année-là. En avril 1995, face à des fraudes massives lors du scrutin de mars...
Ouais, les fameux bourrages d'urnes.
Exactement. Bourrages d'urnes, intimidation bien documentée, enfin la totale. Eh bien, la Cour suprême n'hésite pas une seconde à invalider 13 sièges. Et c'est monumental pour l'époque. Dans beaucoup d'endroits, ça aurait fini direct en coup d'État.
Ou en guerre civile.
Mais là, la Cour constitutionnelle a agi comme un véritable fusible, tu vois.
Un fusible, ouais. Oui.
Voilà. Face à la surcharge de la fraude électorale, le système a sauté au bon moment pour éviter que toute la maison ne prenne feu. Les institutions ont corrigé le tir, toutes seules, en organisant un nouveau vote sous haute surveillance le 28 mai.
Alors, l'image du fusible est super belle, je te l'accorde. Et mécaniquement, oui, le droit a fonctionné. Mais pourquoi le système était-il en surchauffe au point de nécessiter ce fusible? C'est là que je bloque, en fait. Le véritable moteur de cette annulation et de cette mobilisation massive pour le nouveau vote, c'est pas la passion pour l'état de droit, c'est l'économie pure et dure.
Tu parles des décisions budgétaires de Nicéphore Soglo, là.
Exactement. Le président Soglo, avec son passé d'administrateur à la Banque mondiale, il appliquait ce qu'on appelle des réformes structurelles. Et concrètement, sur le terrain, ça veut dire quoi? On parle de salaires gelés pour les fonctionnaires, d'embauches complètement bloquées par l'État, de ménages qui n'arrivent littéralement plus à joindre les deux bouts.
C'est sûr que la pilule était amère.
Très amère. Le gouvernement s'assainissait sur le papier pour satisfaire les créanciers internationaux, mais il étranglait sa population. C'est vraiment cette misère qui a offert à une opposition très hétéroclite l'opportunité de s'unir.
C'est vrai. Mais justement, cette frustration n'a pas mené à une émeute aveugle dans les rues. Elle a été canalisée par le droit. L'opposant historique Adrien Ngbedji et ses alliés, ils ont très bien compris l'arithmétique électorale. Il suffisait de récupérer ces 13 sièges pour inverser le rapport de force à l'Assemblée. N'est-ce pas la définition même d'une démocratie saine, ça? Utiliser les urnes dans les règles de l'art pour contrer un président impopulaire.
C'est une belle théorie. Sauf que, sur le terrain, cette maturité a un prix politique énorme. Ce que la perte de ces 13 sièges montre, c'est qu'un chef d'État perd totalement prise sur son mandat dès qu'il perd la rue.
Oui, enfin.
Attends, le vote du 28 mai, c'est pas un simple rééquilibrage parlementaire. C'est un vote sanction frontal. Si la tension lors du dépouillement était si forte, c'est parce que les électeurs utilisaient vraiment les urnes pour punir l'austérité budgétaire.
Je reconnais que c'était un vote sanction, oui. Mais regarde le déroulement de la journée du 28 mai. Les files se sont formées dès l'aube, tout s'est passé de manière très disciplinée, sans heure majeure. C'est quand même la mécanique institutionnelle qui a réussi à purger un conflit politique très lourd.
Purger ou simplement repousser ? Parce que, cette fragilité du président face au rejet social, elle a écrit le prologue des élections présidentielles de 1996. C'est ce mécontentement qui a poussé le parti de Ngbedji à s'allier aux partisans de l'ancien autocrate Mathieu Kérékou.
Ah, Kérékou !
Généralement, ramener Kérékou au pouvoir. Le coup social a fini par vaincre la vision purement technique du réformateur.
Attends. Je trouve ça assez réducteur de voir le retour de Kérékou uniquement comme un échec du système. On peut tout à fait y voir la victoire ultime du cadre constitutionnel, tu vois. Le fait qu'un ancien dictateur doive revenir au pouvoir non pas par les armes, mais en se soumettant au vote populaire. Ça prouve que les règles du jeu ont été acceptées par tous.
Acceptées, oui. Mais ça prouve surtout l'impossibilité de mener des réformes technocratiques dictées de l'extérieur sans aucun filet de sécurité sociale. Si tu n'as pas le soutien de ta population, tes institutions peuvent bien fonctionner sur le papier, tu cours quand même au naufrage politique.
Eh bien, nous avons donc devant nous deux grilles de lecture profondément complémentaires. D'un côté, une victoire indéniable de la mécanique institutionnelle face à la fraude, où le fusible a joué son rôle à la perfection.
Et de l'autre, une leçon assez sévère sur les limites de l'assainissement financier sans soutien populaire, où l'économie a fini par dicter la politique.
Exactement. Le scrutin de mai 1995 offre en effet une réflexion fascinante sur le véritable prix de la démocratisation. Appliquer à la lettre les remèdes économiques internationaux peut parfois vous coûter votre propre mandat. Nous vous laissons le soin de tirer vos propres conclusions face à ces deux visions de l'histoire. À très bientôt.